Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Le livre de l'Exode tient une place très importante dans l'Ancien Testament et il nous aide à mieux comprendre l'œuvre de Jésus-Christ. Nous commençons aujourd'hui la 9e série d'études consacrée à ce livre et nous aborderons les chapitres 32 à 34. Romuald nous rejoint sur le plateau pour nous faire part de ses réflexions. Mais pour commencer, il va nous rappeler l'histoire racontée dans les 30 premiers chapitres du livre de l'Exode. Romuald, bonjour.
Merci Yann et bonjour à tous. Au début du livre de l'Exode, le peuple de Dieu vit dans l'esclavage en Égypte. Cependant, le Dieu unique, le Tout-Puissant, intervient pour libérer ses gens. Et par l'intermédiaire de Moïse, il les conduit à travers le désert vers le pays promis de Canaan. Nous en sommes arrivés au moment où le peuple de Dieu se trouve au pied du mont Sinaï. Moïse, quant à lui, est monté sur la montagne pour rencontrer Dieu et y recevoir les 10 commandements. Écoutons la suite des événements que notre lectrice va nous lire dans l'Exode, au chapitre 32, les versets 1 à 7.
Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fabriquons-nous un dieu qui marche devant nous, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur répondit « Détachez les pendants d'or des oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Aussitôt, tous se défirent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna l'or au burin et en coula la statue d'un veau. Alors le peuple s'écria « Voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte !» Voyant cela, Aaron construisit un autel devant le veau, puis il annonça à haute voix « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel !» Le lendemain, de bon matin, le peuple se mit à offrir des holocaustes et des sacrifices de paix. Ensuite, il s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse « Va, redescends !» car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte se conduit très mal. Ils se sont bien vite détournés de la voie que je leur avais indiquée. Ils se sont fabriqués un veau de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices en disant « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Puis l'Éternel ajouta « Je constate que ce peuple est un peuple rebelle. Et maintenant, laisse-moi faire. Ma colère s'enflammera contre eux. Et je les exterminerai, mais je ferai de toi une grande nation. »
Merci. Alors, Romuald, cela s'est très mal passé en bas de la montagne.
C'est vrai, Yann. Comme l'Éternel Dieu le déclare, ils se sont vite détournés de la voie que je leur avais indiquée. En effet, le peuple savait pertinemment quelle était la volonté de Dieu, mais il a choisi de lui désobéir.
Pouvez-vous nous dire exactement en quoi le peuple a désobéi à Dieu?
Oui, il a pratiqué l'idolâtrie au lieu d'adorer le seul vrai Dieu. Et il y a plusieurs leçons à retenir à ce sujet. D'abord, le peuple a demandé à Aaron de façonner un dieu. Aaron aurait dû refuser une telle demande, mais par faiblesse sans doute, il obéit. Il faut le rappeler. Dieu interdit la fabrication de tout objet qui tend à représenter un dieu ou le seul vrai dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Nous ne savons pas à quoi il ressemble. Et toute tentative de le représenter par un objet physique va nous induire en erreur et nous finirons par révérer une image de Dieu qui est mauvaise ou mensongère. On peut être sûr que Dieu ne ressemble pas à un veau ni à aucune autre créature. Donc, nous ne devons pas façonner des idoles de bois ou de pierre, ni d'aucune autre matière. Un deuxième élément à dénoncer dans la démarche du peuple est celui-ci. Le peuple semble vouloir adorer l'Éternel tout en s'inspirant des coutumes et rites mensongers et immoraux des autres nations. Cette démarche s'appelle le syncrétisme. Le syncrétisme consiste à vouloir fusionner des éléments de deux religions différentes et contradictoires. Vous voyez, le peuple a demandé à Aaron de fabriquer une idole, un veau en or. Probablement, ce veau représentait un des dieux dans la religion cananéenne. Ensuite, Aaron affirme que c'est ce dieu qui a libéré le peuple d'Égypte. Puis, il déclare que le lendemain, ils organiseront une fête en l'honneur de l'Éternel. C'est la confusion totale et complète. Et quand le lendemain, cette fête a lieu, elle les incite à la débauche et à l'immoralité. Leur manière de faire la fête ressemble beaucoup aux soi-disant fêtes religieuses des peuples cananéens. Ils mangent trop, ils boivent trop, et puis le mot « se divertir ». Selon les savants, indiquerait que l'immoralité sexuelle trouvait une place importante dans ces rites et ces festivités. Par cette pratique de l'immoralité, le peuple désobéissait à l'interdiction divine qui consiste à ne pas tomber dans l'adultère. L'Éternel, le seul vrai Dieu, exige de nous une pureté de foi et de culte. En ce qui concerne la pureté sur le plan spirituel, Dieu nous encourage à n'adorer que lui, à le révérer et à lui faire confiance, à lui seul. Nous devons refuser de participer au culte offert à d'autres dieux, car nous ne devons offrir un culte qu'au seul vrai Dieu. Ensuite, Dieu exige de nous une pureté de foi. Autrement dit, notre conduite devant l'Éternel et dans la vie doit être exemplaire. L'immoralité sexuelle, comme la pratique d'autres péchés, sont à rejeter. Permettez-moi de vous donner une illustration et qui nous aidera à comprendre le grand danger du syncrétisme.
Je vous en prie, allez-y.
Imaginez que vous tenez deux verres d'eau. Dans le premier, l'eau vient d'une source pure. Elle est potable. Vous pouvez la boire sans craindre les problèmes de santé. L'eau dans le deuxième verre, par contre, provient d'un ruisseau très pollué. Si vous buvez de cette eau, vous tomberez sans doute malade. Imaginez maintenant que vous mélangez ces deux verres d'eau. Que se passera-t-il?
L'eau pure deviendra impure et vous n'aurez plus d'eau potable.
C'est exact, Yann. Et il en est de même sur le plan de la foi. On ne peut pas mélanger la foi biblique, l'adoration du seul vrai Dieu, avec l'idolâtrie. On finit par vivre une foi polluée et la vie que nous menons est impure.
Merci. Et vers la fin du récit lu en début d'émission, nous apprenons que l'Éternel, le seul vrai Dieu, s'est mis en colère et qu'il affirme avoir l'intention d'exterminer son peuple.
Oui. En effet, nous apprendrons lors de prochaines émissions que l'Éternel n'a pas détruit son peuple et nous comprendrons également pourquoi il ne l'a pas fait. Ce qu'il faut retenir toutefois est que ce péché, cette tentative de mélanger le vrai et le faux, le pur et l'impur, est gravissime. Courir après d'autres dieux est un acte d'adultère spirituel. Dieu jalouse la relation privilégiée qu'il accorde à son peuple. Il est tout à fait compréhensible que lorsqu'une femme découvre que son mari s'intéresse à d'autres femmes, elle ressent un sentiment de trahison et exprime sa colère. De la même manière, il est légitime que Dieu exprime sa juste colère lorsqu'un croyant se tourne vers des idoles. Nous apprendrons, dans la suite de cette série, que le pardon et la réconciliation avec Dieu sont possibles. Mais pour l'instant, nous devons retenir que l'idolâtrie est un péché très grave aux yeux de Dieu.
Cet enseignement est très pertinent, et encore plus dans les régions ou pays où les anciennes religions traditionnelles sont pratiquées.
C'est vrai, Yann. La tentation peut nous inciter à avoir recours au culte des esprits ou des ancêtres. La tentation peut nous pousser à pratiquer des rites et des cérémonies qui s'adressent aux dieux de la nature. La tentation peut nous amener à consulter des devins ou des marabouts. Cependant, si nous adorons Jésus, si nous mettons notre foi en lui, nous devons nous garder de toute pratique qui entraîne l'idolâtrie et qui nous pollue spirituellement et moralement.
Merci Romuald de nous avoir éclairé sur toutes ces leçons importantes. À présent, André se joint à nous. il va nous parler de la façon dont Satan mélange l'idolâtrie avec la foi en Jésus-Christ. André, bonjour.
Merci Yann et bonjour à tous. De nos jours, certains prédicateurs cherchent à nous convaincre qu'il est possible de devenir riche et prospère si seulement nous mettons notre foi en Jésus. Ils affirment que Jésus est là pour nous bénir sur les plans matériels et financiers. Avant d'aller plus loin, écoutons ensemble la lecture de l'évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 24.
Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent.
Ce verset enseigne que la poursuite des richesses peut devenir si obsessionnelle qu'elle revient à l'idolâtrie. Si nous sommes dévoués à la poursuite des richesses, nous ne serons pas dévoués à Jésus. Si nous mettons notre foi en les richesses, nous ne mettons plus notre foi en Jésus. Si la poursuite des richesses est notre préoccupation première, Jésus n'est plus au centre de notre vie et il ne reçoit plus l'adoration et l'amour dont il est digne. Si nous servons notre propre intérêt en courant après de l'argent et des biens, nous ne servons plus Jésus. Le désir ardent d'acquérir les richesses peut devenir une idole qui pollue notre foi. Bien sûr, nous encourageons tous à gagner leur vie honnêtement afin de subvenir aux besoins de ses proches. Et, également, nous compatissons avec les gens pauvres et encourageons l'Église à venir à leur secours. Cependant, il n'est dit nulle part dans le Nouveau Testament que Jésus soit venu pour accorder des richesses matérielles à ceux et celles qui croient en lui. Ainsi, il n'est pas bon d'associer le nom de Jésus à des promesses de prospérité. La course obsessionnelle après les richesses est l'une des idoles principales du monde moderne, et cette idole n'a pas sa place dans l'Église. Toute promesse affirmant que Jésus multipliera vos richesses n'est pas fondée sur une bonne interprétation de la Bible, mais représente une aspiration mondaine qui a envahi l'Église. Si vous venez à Jésus dans le seul but de devenir prospère, vous cherchez à vous servir de Jésus au lieu de le servir. Et vous cherchez à soumettre Jésus à vos souhaits au lieu de vous soumettre à sa volonté. Jésus seul est digne de notre adoration et de notre confiance. Lui seul est digne de notre amour et de notre dévouement. L'argent et les biens ont une place dans la vie, mais nous ne devons pas les permettre à prendre la place qui revient à Jésus seul.
Merci André pour cette leçon pertinente. Nos deux invités seront de retour la prochaine fois pour nous parler de la suite des événements relatés dans le livre de l'Exode. En attendant de vous retrouver bientôt, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.